Paso doble.
Paso doble.
Mardi, expo.
Bonjour tout le monde. Il aurait eu 100 ans cette année. Will Eisner, le géant, le génie de la bande dessinée américaine, fait l'objet d'une belle rétrospective et d'une exposition au musée de la bande dessinée d'Angoulême. Jean-Pierre Mercier, bonjour.
Bonjour Tufik Hakem.
Vous êtes le commissaire de cette exposition qui a été inaugurée à l'occasion du festival d'Angoulême et qui a lieu jusqu'au 15 octobre au musée donc de la bande dessinée d'Angoulême. Vous êtes conseiller scientifique. S'il fallait présenter Will Eisner.
Le sous-titre de l'expo dit tout, c'est génie de la bande dessinée américaine. C'est pas le génie, c'est génie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui... Il a couvert à peu près tout, enfin presque tout le siècle de 17. Il a arrêté de travailler en 2004, il est mort, donc il a une longue carrière avec des interruptions, et c'est l'exemple à peu près unique pour moi d'un auteur qui a deux périodes créatives dans sa vie qui sont très espacées l'une de l'autre et qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Dans les années 40, il crée un personnage qui va laisser une trace énorme dans la bande dessinée, qui est le Spirit. Et puis revient, dans les années 50, il abandonne un peu la bande dessinée. Enfin, il fait de la bande dessinée, mais autrement. En tout cas, pas dans les publications traditionnelles. Et il va revenir dans le cours des années 70, fin des années 70, à partir de 78, où là, il va publier ce que lui, il a pas inventé le terme, mais il le reprend, il le met sur la couverture de son livre. Il appelle ça « graphic novel », un roman graphique.
C'est lui qui a inventé le terme ?
Non, il l'a trouvé dans un article ou dans une interview, et comme ça correspondait pile à ce qu'il voulait faire, il s'est dit « ça c'est pour moi », et il l'a pris et il l'a mis sur la couverture de son livre. Et qui était donc un bail avec Dieu, « Contract with God », qui est une suite de petites nouvelles en format livre, enfin roman justement, noir et blanc, et qui sont des choses qui étaient extrêmement novatrices à l'époque, et qu'il a faites en même temps que Spiegelman travaillait sur Maus.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un des pères fondateurs de la bande dessinée américaine ?
Yes, on peut le dire, absolument. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler dans les années 30, très jeune. Il vient d'une famille juive, sa mère était juive d'origine roumaine, son père était juif d'origine autrichienne.
Et il est à New York ?
Il est né à New York, dans les quartiers les plus pauvres. Il a un frère qui s'appelle Julian. Il vit dans une misère absolue et il est dans des quartiers où il y a à l'époque des Italiens immigrés, des Polonais immigrés, donc population catholique très antisémite, donc il passe sa jeunesse à souffrir de ce racisme. Il est fasciné par le cinéma, par la littérature, par la bande dessinée, et il est décidé à faire une carrière artistique. Alors il a des raisons pour ça, son père était peintre de fresques et arrivé aux États-Unis, il n'a pas pu continuer à exercer son métier, donc il vivait d'expédients, il n'y avait pas beaucoup de débouchés, et il était fasciné par le monde de l'art en général. Il a essayé d'être peintre, il a essayé d'écrire des choses, et en fait la bande dessinée c'était un mariage des deux. Il a dit, de mes deux faiblesses en tant que créateur, j'ai fait une force qui est la bande dessinée. C'est-à-dire, j'étais pas un très bon écrivain, j'étais pas un très grand peintre, mais j'étais un bon auteur de bande dessinée. Et comme je disais, en fait il a commencé à publier dans les comic books, qui étaient à l'époque le moyen d'expression, le support en vogue après Superman, après tout ça. Et puis il va se distinguer en créant le Spirit, qui est en fait un comic book qui est inséré dans des journaux quotidiens et qui est une œuvre absolument prodigieuse.
Alors, avant de parler de ce héros masqué, avant de parler du Spirit, parlons de New York et plus précisément de Brooklyn. Vous venez d'en parler, Jean-Pierre Mercier. C'est d'abord les quartiers pauvres de Brooklyn qu'on remarque dans l'univers graphique de Will Eisner.
Le grand personnage qui fait tout le fond de toute son œuvre. Alors, il y a des exceptions, bien sûr, mais là où il est le plus intéressant, le plus riche, le plus pertinent et le plus frappant, c'est tout les histoires qui se passent dans la ville. Le Spirit, l'histoire se déroule dans une ville qui s'appelle Central City, mais c'est New York. Et dans A Contract with God et dans toute la suite, parce qu'à partir de 78 jusqu'à la fin de sa carrière, il va revenir sur son enfant, sur sa vie, sur l'histoire de la famille de sa femme, enfin sur tout un tas de choses comme ça. Il revient sur le Brooklyn et aussi sur le Bronx, qui étaient les deux quartiers les plus pauvres, les plus mal famés avant la guerre aux États-Unis. Et il reparle de ça, il le met en scène. Donc la ville, c'est vraiment, c'est un homme de la ville, Eisner. Et notre exposition, les scénographes qui sont l'agence Suicilum, donc Marc-Antoine Mathieu et son camarade Philippe, ils nous ont fait une expo dans laquelle c'est une métaphore de la ville avec des ombres, des immeubles.
Les grands blocs.
Voilà, des blocs énormes. Et on est en plein dedans. Et c'est exactement ça, c'est le cœur du sujet. C'est la ville. Lui, il est là-dedans. Et ce qui est fascinant, c'est la ville des années 40, à l'époque du Spirit. C'est-à-dire, il est exactement contemporain à ce qu'il décrit. Et là, on est dans alors les petites rues mal famées, les lampadaires, les lumières comme ça bien tranchées, le noir et blanc formidable, même si ça part en couleur. C'est un grand dessinateur du noir et blanc. Et pour la deuxième partie de sa carrière, donc on va dire la partie roman graphique, là, on est dans une évocation plus
distancié de New York.
Un petit peu, ouais. Mm-hmm.
C'est très présent.
Les immeubles de vraiment de très basse qualité qu'on appelle les tenements, qu'on retrouve dans beaucoup de films d'avant-guerre aux États-Unis, on est dedans tout le temps. Vous savez, avec les escaliers en fer à l'extérieur, enfin ce genre de choses. C'est un peu l'ambiance West Side Story, si on veut, d'une certaine façon.
L'expo d'ailleurs retrace très bien. Hein, c'est-à-dire, on a la consécration de Will Eisner à la fin de cette expo, mais sinon on commence par son enfant. Par ses débuts dans le dessin et dans le monde de l'édition. Alors, s'il fallait parler de son super-héros, entre guillemets, le Spirit, qu'est-ce qu'il a de différent des autres super-héros contemporains?
Alors, c'est qu'il naît effectivement dans la pleine vague des super-héros, après Superman, après Batman, après The Flash, et puis il y aura Captain America ensuite. Et en fait, il est contacté par quelqu'un qui travaille dans une agence, qui est un personnage pas du tout connu en France, mais qui est un nom important de l'histoire de la bande dessinée américaine, qui est Everett Arnold, dit Buzzy Arnold, et qui voit, lui, arriver la vague des comic books qui envahissent vraiment le marché, c'est un nouveau support et on touche un nouveau public, donc c'est un moyen de faire de l'argent. Et donc c'est là où il y a Action Comics numéro 1, Superman, etc., tout ce matériel nouveau et qui crée un nouveau type de personnage que nous on appelle aujourd'hui les super-héros, mais qu'à l'époque on appelait les costumed heroes, les héros en costume. C'est-à-dire la cape, tout le truc, tout l'uniforme. Et Everett Arnold, en fait, il se dit on va faire un comics avec un personnage comme ça pour les journaux quotidiens. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on va publier le comic book et donc on va pouvoir essayer de concurrencer le marché du comic book parce que c'est un segment du marché qui touche le public adolescent. Et pour les journaux, si on perd ce public, c'est un petit peu embêtant quand même. Et donc, Eisner est un professionnel connu et reconnu. Il est déjà très bien connu dans le milieu, surtout à New York. Et Everett Arnold pense à lui tout de suite et prend contact. On voudrait que tu nous fasses un supplément d'une douzaine de pages toutes les semaines. Tu le prends en charge, tu recrutes qui tu veux et tu prends en charge la bande principale. Et il commence à discuter avec Arnold. Il y a un courrier, à l'époque, ils n'étaient pas exactement voisins, donc ils s'envoyaient des courriers, des trucs. Et le courrier est vachement intéressant parce qu'on se rend compte que c'est vraiment une négociation, quoi.
Et il négocie quoi?
Il négocie le fait que c'est une bande dessinée qui se passe contemporaine, qui se passe dans une ville, qui est une bande dessinée, on va dire, policière. Donc il négocie, mais il y a une chose sur laquelle il est absolument intraitable. Ce personnage n'aura pas une force surhumaine, ne volera pas dans les airs, n'aura pas enfin tous les attributs de Superman ou des autres. Il ne veut pas entendre parler de ça. Et donc Arnold finit par dire, bon d'accord, on laisse tomber, mais je veux qu'il ait un costume. Et là, Eisner dit, ok, il raccroche, c'est lui qui le racontait, il raccroche le téléphone, il va à sa table à dessin, il prend son personnage, il lui rajoute juste un simple masque noir sur les yeux, un loup tout simple. Et ce sera le costume du Spirit.
Comment Will Eisner va se faire connaître, comment son trait, son dessin vont être repérés par les éditeurs?
Alors, sur le Spirit, ce qu'il y a de formidable, c'est que là aussi, par exemple, il va discuter avec Arnold, qui lui dit, il faut un logo, Superman a un logo, Terry les Pirates, il y a un logo, etc. Et Eisner dit non, moi je veux pas de logo. Parce que si jamais les gens qui lisent cette histoire, ça leur plaît pas, la fois d'après, s'ils voient le même logo, ils vont dire « Ok, c'est pas bon, je passe ». Et j'ai très peu de pages. Il avait 7 pages pour raconter cette petite histoire. Alors, il adorait les histoires courtes. Et il s'est servi de beaucoup de recettes de la littérature, de forme courte, des nouvelles, dans ses histoires. Et il était très célèbre, il a très tôt été très célèbre avec le Spirit, parce que chaque page d'ouverture, en anglais splash page, est différente. Alors des fois, c'est le Spirit qui est accoudé à son logo. D'autres fois, le logo, ça va être un immeuble avec les lettres qui font un pâté de maison entier. Des fois, ça va être une feuille de journal qui vole un peu comme dans les films d'Hitchcock, hein, qui passe sous un lampadaire. Des fois, ça va être des lettres qui vont glisser dans une bouche d'égout. D'autres fois, il se met même en scène à sa table à dessin en train de dessiner le Spirit. Donc, il varie ça de manière absolument incroyable.
Et tout ça, c'était très nouveau, je suppose, à l'époque.
Complètement. Il a totalement innové. Il était dans une forme extrêmement stricte, c'est-à-dire il fallait qu'il livre 7 pages, il fallait qu'il y ait une histoire de détective avec des méchants, des femmes fatales, le héros, que tout se termine bien à la fin. Mais très très vite, il part de ça et très très vite, il innove. Il disait, j'étais dans une forme, dans un format assez contraint, mais en réalité, je savais pas quel était mon public, je savais que je pouvais toucher un public adulte. Et donc, très vite, il va commencer à faire du second degré. Ça s'appelle le Spirit parce qu'il va passer deux cases, mais en réalité, ça va être l'histoire de son faire-valoir qui est Bonnie ou de son éternel fiancé qui est Hélène. Il leur arrive des petites histoires. Il va faire des récits qui sont au passé. Il fait beaucoup de flashbacks. Il va jouer aussi, par exemple, c'est la grande époque de ce qu'on appelle les soap operas, c'est-à-dire les feuilletons radio interminables en France. Jusque dans les années 60, on avait la famille du raton. Ce genre de choses. Il va faire une histoire entière qui est fictivement scénarisée par quelqu'un qui travaille pour les soap operas. Donc ça veut dire que ça devient une histoire qui est complètement larmoyante et tout. Et on le voit à la dernière case, Eisner avec sa carton à dessin qui va à l'équivalent du Pôle emploi. Et le type il dit, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai confié ma série à un autre scénariste, j'ai eu tort. Voilà. Et donc il se retrouve au chômage. Et tout le récit fonctionne comme ça. Mais en même temps, il répond toujours à la commande. Il y a des vrais malfrats méchants avec des cicatrices, avec des nez écrasés, avec des têtes pas possibles. Il y a des
de la baston, de l'action.
Ouais, absolument. Et puis il y a des femmes fatales. Alors là, il y a la plus célèbre et la plus remarquable, et la première, elle s'appelle Pegel, P'GEL, et c'est la prononciation américaine de Pigalle, le quartier de Paris. Donc on voit tout de suite l'ambiance. Elle a des décolletés absolument vertigineux, elle est assez belle, et comme le Spirit est plutôt bien de sa personne, elle n'est pas indifférente au charme du garçon, donc il est du côté du bien, elle est du côté du mal, mais ils sont pas indifférents l'un à l'autre. Bien que lui soit éternellement fiancé à Hélène, qui l'adore, mais qui n'est pas non plus complètement dupe de la situation. Et donc, il y a un critique qui a dit que ce qui avait de formidable avec le Spirit, c'est qu'on est à la fois dans le premier degré d'un récit, et aussi dans le second degré du récit tout de suite. Enfin, très très vite.
Le succès arrive vite pour le Spirit ?
Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe durant cette période où il est pauvre, il lit de la bande dessinée en vendant les journaux à Wall Street, et le moment où il est contacté par un éditeur ?
Alors,
il y a eu une formation de dessinateur.
Alors, il a fait quelques semaines de cours d'anatomie avec un excellent peintre américain dont évidemment le nom m'échappe. Mais il a un vrai talent. Il sait dessiner. On a mis dans l'exposition les 3-4 dessins qui restent de tout ce qu'il a fait dans sa jeunesse. On a 3-4 dessins de quand il a 17 ans. Il y a deux eaux fortes, il y a deux trucs au crayon. Bon, c'est pas complètement maîtrisé, mais on sent déjà qu'il y a du potentiel. Le garçon sait faire. Et en fait, il va faire comme tous les autres dessinateurs. Il va aller de maison d'édition en maison d'édition pour essayer de faire passer ses bandes. Et là, il va tomber sur quelqu'un qui s'appelle Jerry Iger, qui lui est un démarcheur, c'est une espèce de VRP pour les dessinateurs, et ils s'entendent tout de suite très bien. Et Eisner, qui réfléchit toujours à comment bien gagner de l'argent, propose un truc à Iger et lui dit, écoute, plutôt que de courir comme ça, en gros courir le cachet, essayer de placer nos bandes, ce qu'on devrait faire, c'est créer un studio, un atelier, et puis on ferait des prototypes de bandes dessinées qu'on pourrait proposer aux éditeurs. Donc on pourrait réfléchir à une bande de pirates, une bande de détectives, une bande sentimentale.
Des concepts.
Voilà, on fait juste les prototypes, on fait des concepts, on les vend. Si ça marche, on se fait payer. Si ça marche pas, ben tant pis, on se sera fait payer au moins pour le travail qu'on a fait. Et puis, ben, à nous d'être bons. Et ça s'appelle Eisner and Iger, parce que Eisner a un tout petit peu d'argent. Il a $15 de l'époque, ce qui n'est pas grand-chose. Et ils achètent, ils louent un étage dans un immeuble, un des immeubles minables dont on parlait tout à l'heure. Et là, il va commencer à travailler. Iger fait le démarchage et lui commence à publier les bandes. Il est tout seul, donc il change de style, il change de signature. Alors, il fait tous les anagrammes possibles avec son nom, Renzi, etc. Et c'est dans cette période-là, il va se faire repérer justement par les professionnels dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il va créer, par exemple, China, Queen of the Jungle, qui est bien connu. Les amateurs des Ramones se souviennent du morceau qui s'appelle China is a Punk Rocker. Ça vient de là, hein, c'est des années 30. Il y a des films, enfin bon. Et c'est quoi? C'est Tarzan, blonde, Tarzan femme, blonde, avec un costume léopard. Et comme Tarzan a Jane, qui se fait toujours attraper par les singes, les sauvages, les méchants, etc. Là, il y a un dénommé Bob, qui est maladroit, myope, qui tombe dans tous les trous, qui se tord la cheville, etc., etc. Donc c'est une espèce d'histoire à l'envers. Il y a une dose d'érotisme indiscutable là-dedans, et ça marche. Et c'est comme ça qu'il se fait repérer comme grand dessinateur qui fournit la commande à l'heure et c'est toujours du bon matériel.
Vous l'avez dit au début de cet entretien, Jean-Pierre Mercier, il y a eu des périodes où il a arrêté de faire de la bande dessinée pour faire autre chose. Il revient à la fin de sa vie à son amour, c'est-à-dire le 9e art, c'est-à-dire la bande dessinée, c'est-à-dire le roman graphique. Et dans un documentaire réalisé par quelqu'un qui...
Andrew D. Cook,
voilà,
qui a fait ça quelques années. Eisner est mort en 2004, je crois. Il a fait ça quelques années avant. Et en fait, il interviewe Eisner, sa femme... Et il va interviewer tous les gens. Alors, il y a du beau linge, hein. Il y a Art Spiegelman, Joe Kubert, Stan Lee, enfin vraiment...
Alors, pourquoi il reprend la bande dessinée après une interruption de près de 10 ans? On l'écoute, Will Eisner.
À propos d'un bail avec Dieu, premier roman graphique de Will Eisner lorsqu'il revient à la bande dessinée. C'était un problème qu'il fallait résoudre, prendre ce sujet qui n'avait jamais été traité dans ce média. La deuxième chose, c'est le thème de la relation à Dieu. Tout le monde est concerné par ce sujet. Il s'est imposé à cause d'événements tragiques qui m'ont amené à remettre en cause mon propre pacte envers Dieu, ou plutôt son pacte envers moi-même. Cela m'a fourni le carburant émotionnel. Parfois, vous traversez des événements qui provoquent des émotions si fortes que vous ne pouvez pas mettre des mots dessus. Et c'est ce qui est arrivé. Il ne s'exprimait pas beaucoup sur le sujet, mais on a beaucoup souffert, et il a sûrement beaucoup souffert. Il y a une période de ma vie dont j'évite de parler, c'est la mort de ma fille, qui est décédée d'une leucémie à 16 ans. Cela a sûrement eu une influence sur mon livre, Un pacte avec Dieu. Je me suis sûrement inspiré de cette expérience, mais sans en avoir conscience à l'époque. Et après sa mort, j'évitais d'en parler à qui que ce soit, et je me souviens que je ne pleurais pas. Je frappais du poing sur la table. C'était une telle injustice que cet enfant adorable soit enlevé au printemps de sa vie.
Et pendant ces moments de pause, Jean-Pierre Mercier, qu'est-ce qu'il faisait, Will Eisner?
Alors, il a arrêté de travailler dans la presse classique traditionnelle entre, en gros, 52 et 72. En fait, il a monté une boîte de ce qu'on appellera aujourd'hui la communication visuelle.
Avant l'heure.
Voilà, c'était encore une fois un homme d'affaires très avisé. Et il avait travaillé pendant la guerre, en tant qu'appelé, il avait travaillé pour le Pentagone.
Et ça, on voit bien dans l'exposition. Je rappelle, à Angoulême, franchement, ça mérite d'aller à Angoulême, cette exposition. Ça dure jusqu'au 15 octobre. Jean-Pierre Mercier, pour terminer, est-ce que on peut déjà rappeler que le prix de référence pour les auteurs de bande dessinée, pour les dessinateurs aux États-Unis, ça s'appelle...
Le Eisner Award, les prix Eisner. Et alors, il a eu de son vivant, il a reçu son propre prix plusieurs fois, parce que ça a été décidé de son vivant, et comme il publiait, il a reçu son propre prix, ce qui est une situation que je trouve assez formidable.
Tout le monde se réclame de Will Eisner. Quand je dis tout le monde, je veux dire un monde suffisamment différent qui va de Gottlieb à Art Spiegelman. Pourquoi, comment?
Mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui très tôt a pris la bande dessinée au sérieux. C'est-à-dire que Denis Kitchen, qui est l'agent avec lequel on a monté Sexpo et grâce à qui elle a pu se monter d'ailleurs, parce qu'il avait toutes les connexions, tous les contacts et surtout la confiance de la famille, me disait qu'il avait retrouvé en quelque chose comme 41 une interview dans le journal où Eisner, très sérieusement, qui est un jeune dessinateur, explique que un jour on prendra les auteurs de bande dessinée autant au sérieux que les romanciers, les choses comme ça. Et le journaliste commente ça avec un tout petit peu d'ironie sur l'air de ce jeune homme m'a l'air un tout petit peu dérangé dans sa tête, quoi.
Will Eisner, génie de la bande dessinée américaine, c'est au musée de la bande dessinée d'Angoulême jusqu'au 15 octobre. Merci au commissaire de l'exposition Jean-Pierre Mercier d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup.
Ce fut un plaisir.
Partagez.